C'est supplément et c'est un peu difficile de comprendre cette réaction assez terrible de Jésus devant une question qui semble tout à fait correcte et que peut-être nous nous posons de temps en temps. Est-ce qu'il y aura beaucoup qui seront sauvés ? Plutôt, ils seront peu à être sauvés. Jésus répond d'une manière très sévère, très dure. On dirait qu'il est fâché. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il répond ? Il dit... D'abord, il ne répond pas à la question. Il ne dit pas s'ils seront peu ou beaucoup. Et là, ça devrait nous mettre déjà à notre place, parce que si votre enfant vous demande est-ce qu'on sera sauvé ou pas, un enfant au caté qui demande est-ce qu'on sera sauvé ou pas, et probablement notre question, mais ne t'inquiète pas, le bon Dieu il est très bon, alors on va tous passer. Eh bien Jésus, comme dit l'Épître aux Hébreux dans la deuxième lecture, il nous donne une leçon. On va comprendre pourquoi la sévérité du Seigneur est nécessaire. Qu'est-ce qu'il répond ? Il répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que beaucoup chercheront, mais n'y parviendront pas. Beaucoup n'arriveront pas. Et puis il dit, c'est étroite cette porte. Et il ajoute après, la porte sera fermée. Il y a un moment où la porte est fermée. Et vous aurez beau à frapper, le Seigneur va vous répondre, je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne vous reconnais pas. Vous allez dire, mais oui, nous avons écouté tes enseignements, tu as mangé chez nous. Et le Seigneur répète. Et quand Jésus répète, il ne gaspille pas les mots. Je ne sais pas d'où vous êtes. Combien de fois nous disons, oui, combien de fois j'ai entendu dire, ah, j'étais enfant de cœur. Oui, il y a 30 ans, tu étais enfant de cœur, et maintenant, ta vie chrétienne, à quoi ça rime? Je ne sais pas d'où vous êtes, et ce qui est pire, Jésus ajoute, éloignez-vous de moi, vous qui faites, qui commettez l'injustice. L'injustice, c'est l'impiété, de ne pas vivre avec Dieu. Dans la Bible, l'injustice, c'est surtout un tort qu'on accomplit vis-à-vis du Seigneur. Et quand Jésus dit « éloignez-vous de moi », ça c'est l'enfer. En théologie, on se pose la question « c'est quoi l'enfer ?» L'enfer, c'est l'absence de Dieu. Quand je vis comme si Dieu n'existait pas, eh bien je suis déjà en enfer. Quand je me passe du bon Dieu, on va voir pourquoi. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est pas drôle. Grincer les dents, les pleurs, le désespoir, finalement. Et d'autres viendront de loin pour prendre les places. Vous voyez ? Vous arrivez en retard un repas. Il n'y a plus de place, quelqu'un l'a prise. Parce que les derniers seront les premiers seront les derniers. Pourquoi ? On peut se poser la question dans un deuxième moment. Pourquoi Jésus est tellement fâché ? Pourquoi il est tellement sévère ? Eh bien, parce que la question... S'il y a peu qui seront sauvés, s'attaque à la vertu de l'espérance, L'espérance avec la foi et la charité sont des vertus théologales qui nous mettent en communion intime avec le bon Dieu. De quelle manière s'attaque cette question à l'espérance? Il y a deux possibilités. Je ne sais pas ce que Jésus a perçu, mais probablement la présomption. C'est un péché contre l'espérance. Ça veut dire quoi la présomption? C'est l'opposé du désespoir. Celui qui désespère, il dit « je ne vais jamais arriver ». La présomption, c'est « oui, de toute manière, je vais arriver ». Et il oublie que pour arriver, on a besoin de la grâce de Dieu. Il oublie que la partie n'est pas encore finie, que le dernier mot ne nous appartient pas, que le jugement appartient au Seigneur. Alors, si la personne qui a posé la question, il la pose par curiosité, ou en pensant que de toute manière elle est déjà sauvée, ça c'est la présomption. Ça veut dire, ça vient du latin, présumere, prendre par acquis, nous pouvons dire, quelque chose qui n'est pas encore accompli. Alors, imaginez que c'est déjà fait alors que ce n'est pas déjà fait. C'est comme dans les matchs de football, quand il y a une petite différence sur les scores et à la dernière minute, quelqu'un fait un but. Et voilà, la joie, c'est tout en tristesse. Et ici, c'est beaucoup plus important. Il faut dire que la question qu'on a posée, c'est la question essentielle de la vie. Être sauvé, être avec Dieu, ou ne pas pouvoir entrer avec Dieu. C'est la fin ultime de l'existence humaine, la raison de notre existence. Si je me sauve, si j'entre au paradis, si je vais avec Dieu, ma vie sera accomplie. Si je ne suis pas sauvé, même si j'ai réussi ma carrière, si j'ai réussi à marier la plus belle fille ou les plus riches des garçons, si je suis très populaire et que j'ai pu acheter tout ce que je voulais et faire les vacances que je prétendais, eh bien, si je ne suis pas sauvé, ma vie a été un échec. La question est complètement importante, c'est la destinée, la validité de notre existence. Mais la deuxième raison, c'est que peut-être la personne qui a posé la question a banalisé cette question. A fait de la question essentielle de la vie, comme nous faisons souvent, une question qu'on peut se poser, une discussion, quand on attend devant la coiffeuse, une discussion de palier entre voisins. Est-ce que tu as vu qu'il fait chaud? Est-ce que c'est long peu à être sauvé? Mais ce n'est pas le même niveau. Alors Jésus, par sa réaction, nous manifeste que c'est la question essentielle de la vie. Il ne faut pas la banaliser. Il y a des personnes, et on entend beaucoup ça, surtout dans les discussions où il y a un peu de monde, il y a un peu de famille. Alors, oui, est-ce que tu vas à la messe? Tu vas encore à la messe? On rigole. Tu crois encore à ces choses-là? On parle. Et c'est là le péché. Et c'est pour cela que je dis on banalise, parce qu'on parle des seules choses qui comptent d'une manière très détachée, indifférente, comme si ça ne nous concernait pas, avec distance. Est-ce que tu crois encore à ces choses-là? Tu crois encore à la confession? Oui, moi je crois parce que Jésus a dit à ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Alors, où est le problème? Est-ce que tu crois encore à la vie éternelle? Mais oui. Est-ce qu'on va discuter comme si c'était un sujet banal? Non, parce que ça a coûté le sang du Christ. Il a payé de sa vie. Que faut-il faire donc? Il faut peut-être, c'est la leçon d'aujourd'hui, réfléchir et rendre grâce au Seigneur du don du baptême, du don de la foi. de l'espérance du salut et apprendre à vivre la foi comme une réalité qui est déjà présente. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'y croyez pas en Dieu, si vous vivez comme si Dieu n'existait pas, c'est déjà l'enfer. Vous prolongez quelques années la chose, vous allez vous trouver vieux, seul, abandonné. Il n'y a pas mieux que ça à s'attendre quand on est sans les bons dieux. Si nous vivons avec les bons dieux, que nous essayons d'écouter sa parole, de faire jaillir dans nos cœurs l'espérance, de nous réjouir de la résurrection du Christ, de chercher à entrer par la porte étroite, eh bien, le royaume des cieux est déjà présent. Et nous sommes sauvés en espérance, comme dit saint Paul. Une espérance qui ne déçoit pas. Il faut savoir, frères et sœurs, on peut se perdre. Il y a mille manières de se perdre. Et très souvent autour de nous, malheureusement, nous voyons des exemples de personnes dont on se pose la question, est-ce qu'elles sont vraiment sauvées? Est-ce qu'ils s'intéressent au salut? Nous essayons d'entrer par la porte étroite et d'attirer les autres aux sources du salut.